Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur 01 TV et comme chaque mois, votre rendez-vous dédié aux mobilités, à toutes les mobilités. Bienvenue dans 01 Drive. Jérôme, bonjour.
Salut François, bonjour à tous. Les mobilités connectées, la high-tech au service de vos déplacements. Voici le sommaire de ce 01 Drive. Le gouvernement passe la vitesse supérieure en matière de véhicules électriques avec une grosse enveloppe pour le développement de stations de recharge rapide.
J'allais dire, il était temps. Et on évoquera aussi les Tesla, Jérôme, avec un nouvel habitacle, une baisse de prix pour certaines Tesla. On en parlera avec miam. Notre invité tout à l'heure.
On parlera vélo, François, bien entendu, comme souvent dans 01 Drive, avec une innovation française très prometteuse, un moteur révolutionnaire qui émane du constructeur automobile Valeo.
L'équipementier Valeo. Acheter un nouveau vélo, tiens. C'est... Et puis attendez, regardez, l'été arrive bientôt.
Oh là
tout de suite,
là
mais
là
bientôt.
Là.
Vous vous imaginez sur cette petite trottinette flottante, là, ça a l'air bien, hein. Eh bien, on en parlera. C'est une nouveauté, 01 Drive.
Voilà, bienvenue dans 01 Drive, c'est parti.
Nous sommes très fiers de pouvoir vous le dire, 01 Drive, c'est le seul rendez-vous de 52 minutes tous les mois à la télé en France qui parle de toutes les mobilités électriques, innovantes, intelligentes aussi et évidemment bourrées de high-tech puisque c'est un peu le thème quand même de cette chaîne 01 TV que vous suivez peut-être.
Voilà, ça ne veut pas dire que les présentateurs sont intelligents mais les technologies le sont, hein, François.
Ça, gardons quand même un peu d'humilité. Alors on a plein de choses encore une fois à vous raconter aujourd'hui. Notez que vous avez toujours le hashtag 01Drive sur Twitter. Vous pouvez réagir évidemment à tous les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui.
Voilà, on va démarrer donc avec notre séquence actu comme chaque semaine et ça s'appelle En route.
Enfin, cela dit, j'ai fait ça avec le volant, mais avec la Tesla qu'on va évoquer tout à l'heure,
c'est
plutôt
comme ça.
C'est
comme ça maintenant, la mobilité, la voiture. Enfin, bientôt.
Et oui, avec la voiture autonome. Et Jérôme, alors, c'est une information importante, parce que c'est vrai qu'on évoque beaucoup le véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est génial. Si vous nous suivez depuis pas mal de mois maintenant, vous en voyez peut-être tous les avantages. Mais il y a un point noir quand même dans le monde du véhicule électrique, ce sont les bornes de recharge.
Exactement, avec une infrastructure en France qui est quand même bien.
Un peu chaotique et tout sauteuse.
Chaotique, exactement, c'est le point noir de tous ceux qui ont des véhicules électriques et qui essayent de faire des longs trajets, c'est surtout ça la difficulté. Mais heureusement, cela pourrait changer puisque les pouvoirs publics ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps avec une annonce il y a quelques jours à peine de la part du gouvernement. Le gouvernement qui va mettre du cash, de l'argent sur la table pour aider le développement des bornes de recharge sur les autoroutes d'ici 2023.
Une enveloppe de 100 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est assez, finalement? On va en parler avec notre invité qui est en visio avec nous par Skype, Laurent Meillot, qui est journaliste spécialisé dans ce domaine. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Bonjour Laurent Meillot.
Merci d'être avec nous dans 01 Drive. Alors Laurent qui est un fin connaisseur hein, du monde de l'automobile. Et alors Laurent, première question, voilà, qu'est-ce que vous pourriez réagir et nous dire concernant cette annonce donc de cet investissement quand même important, hein, 100 millions d'euros sur la table pour, on va dire, aller développer les bornes de recharge en France.
Oui, alors bien sûr. C'est intéressant, c'est bien. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'à la base, c'est pour faire oublier un fiasco, parce qu'en fait, il existait déjà des bornes sur les autoroutes. Il y a 200 bornes qui avaient été installées dans le cadre du projet Corridor à partir de 2015, et 90% de ces bornes ont été neutralisées car elles étaient défectueuses. Et ça fait un an, en fait, que la plupart de ces bornes sont inopérantes, et que c'est donc très compliqué pour des Français ou étrangers qui traversent la France de se recharger en mode rapide. Alors, bien sûr, cette enveloppe va permettre de remettre à niveau le parc, puisqu'en fait, on aura des bornes beaucoup plus performantes, allant jusqu'à 150 kW, et qui permettent donc de recharger en fait des véhicules de dernière génération. Et l'idée, c'est donc d'équiper systématiquement toutes les aires de service des autoroutes concédées, c'est-à-dire 364 aires de service sur 9000 km d'autoroute, plus des bornes sur le réseau détenu par l'État.
Laurent, est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens notamment? Et est-ce que cette action va permettre de rattraper cet éventuel retard?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, on a 30 000 bornes publiques. Il y en a plus en Allemagne. L'Allemagne est partie plus tard, mais en fait, elle nous a devancés. Et les Pays-Bas font encore mieux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, globalement, l'Europe est plutôt en retard. Donc, on n'est pas très en avance, mais on n'est pas les seuls, malheureusement. Et c'est un vrai problème européen, finalement. Et c'est pour cela que, très récemment, la CEA, qui est l'Association des constructeurs européens, a réclamé avec des ONG qu'il y ait 1 million de bornes en 2024 et 3 millions en 2029, contre un peu plus de 200 000 aujourd'hui. Alors, en France, je le disais, 30 000 bornes publiques. L'objectif, c'est d'arriver à 100 000 d'ici la fin de l'année. Honnêtement, je ne sais pas comment on va y arriver, sachant que l'engagement avait été pris en 2017 avec la filière automobile. Les constructeurs, eux, sont prêts et sortent leurs véhicules. Le problème, c'est que les bornes, il n'y en a pas assez, et surtout pas assez de bornes de recharge rapide.
Mmh. Oui, rapide, c'est 150 kWh, mais tous les véhicules ne sont pas compatibles avec cette puissance-là, hein.
Non, effectivement, les véhicules de dernière génération sont compatibles. Si on prend l'exemple des dernières Peugeot qui sont sorties électriques, elles sont compatibles jusqu'à une charge de 100 kW. Alors, certaines voitures font mieux, notamment les constructeurs allemands. Ça peut aller jusqu'à 350 kW. Alors, c'est le cas, par exemple, de la Porsche Taycan, hein, qui est un véhicule très puissant. Et c'est pour ça que les Allemands, d'ailleurs, ont pris le parti, finalement, eh bien, de financer leurs propres bornes. Ils ont créé une société, Ionity, qui a pour objectif de développer 400 bornes de recharge ultra rapide, et ils n'en sont pas très loin. Il y a d'ailleurs une cinquantaine de ces bornes aujourd'hui en France.
Laurent Millot, alors évidemment il y a cette enveloppe de 100 millions d'euros, mais il y a aussi des initiatives privées, hein, pour développer des bornes de recharge. On en parlait d'ailleurs, Jérôme, le mois dernier avec Total, qui veut installer des bornes dans les stations-service. Est-ce que c'est l'équation qui sera gagnante, à votre avis, entre, on va dire, les initiatives publiques et puis les initiatives privées?
Bien entendu, ce qu'il faut voir, c'est que dans les 100 millions, ce n'est pas l'État qui achète les bornes. L'État ne fait que financer. Il subventionne à hauteur de 10 à 30% et il prend en charge également, par certains mécanismes, les coûts de raccordement. C'est donc des opérateurs qui doivent faire l'effort. Alors, il faut dire une chose, c'est que les collectivités publiques, les collectivités territoriales, sont elles qui financent à 70% en France. Mais alors, bien sûr, il y a aussi des grandes surfaces, ça peut être des supermarchés, et vous l'avez dit, des opérateurs ex-pétroliers ou pétroliers qui se diversifient dans les énergies nouvelles. Alors, bien sûr, il y a Total qui veut financer des bornes tous les 150 km. Shell a fait une annonce récemment puisqu'il veut financer 1 million de bornes de recharge. Il se donne une échéance sur 5 à 10 ans. Donc c'est très bien de voir que les pétroliers se lancent dans ce business parce qu'effectivement, pour eux, c'est indispensable. Mais c'est la coexistence finalement de plusieurs initiatives qui permettra peut-être d'arriver un jour à un objectif de 100 000 bornes. En tout cas, les experts pensent qu'on arrivera plutôt à cette échéance en 2025 plutôt que fin 2021.
Oui, donc on risque d'avoir quand même quelques années de retard. Est-ce qu'on a une idée du nombre de bornes qu'il faut pour avoir un maillage, on va dire, excellent pour notre pays, Laurent ?
Alors, bon, aujourd'hui, on a à peu près, il y a 30 000 bornes et 300 000 véhicules, donc le calcul est assez vite fait, en fait, hein, vous avez une borne pour 10 véhicules. Bon, c'est pas si mal, mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de ces 30 000 bornes qu'on a en France, la plupart sont des bornes de recharge lentes qu'on trouve en voirie. Si vous vous souvenez de l'exemple d'Autolib à Paris, c'était des bornes de recharge très lentes même, et qu'il a fallu, en fait, remplacer. Le problème, c'est quand on veut traverser la France, il faut pouvoir recharger assez rapidement, en une demi-heure. Le problème, c'est que les bornes existantes, jusqu'à 50 kW, elles ont été dimensionnées pour des véhicules qui avaient moins d'autonomie et qui donc rechargeaient en 30 minutes, mais à hauteur de 100 km par exemple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les batteries sont super puissantes, elles font 90 kWh, voire plus, et donc il faut beaucoup de jus derrière. Alors en même temps, il faut prévoir toute l'infrastructure pour que le courant arrive à une bonne cadence. Mmh. Et le problème qui va se passer, à mon avis, c'est que quand il y aura des files d'attente sur l'autoroute pendant les vacances, parce que pour l'instant, il y a relativement peu de véhicules dans le parc existant, mais plus ça va aller et plus le problème va se poser. Est-ce qu'on aura suffisamment de courant en amont? Est-ce qu'il va arriver assez vite? Et surtout, comment va-t-on gérer effectivement les files d'attente? Ça, c'est un vrai problème.
Et oui, c'est vrai, puisque effectivement, le jour où il y aura beaucoup de véhicules électriques qui partiront en même temps, qui rentreront en même temps, ils vont être obligés de se recharger en même temps. Et en plus, un plein, c'est pas 5 minutes, hein, c'est pas encore 5 minutes comme un plein d'essence.
Ah non, c'est 30, 45 minutes.
Et hein. Ben voilà, tout dépend après de la vitesse, de la puissance de la borne, de la vitesse de.
Oui, Laurent ?
Oui, je disais, si tout va bien, parce qu'effectivement, j'ai l'exemple d'un confrère qui a fait un road trip en plein hiver, c'était il y a un an, et justement, il est parti avec un véhicule dernière génération, il a voulu tester les bornes de recharge ultra rapide, et ça a été assez gaguesque, parce qu'en fait, à cause du froid, finalement, le courant arrivait moins vite que prévu, et je ne vous parle même pas des problèmes d'accès avec les cartes qui vont bien, pour justement profiter de ces bornes.
Ah ouais. Top, bien. Merci beaucoup Laurent.
Merci
Laurent
pour cet éclairage.
Meillot, qui est journaliste spécialisé dans l'automobile, l'automobile connectée, que vous pouvez retrouver sur son site, hein, laurentmeillottoutaccroché.com. Merci beaucoup.
Grand connaisseur merci, du
merci.
Domaine.
Merci.
C'est vrai qu'on prévoit, François, 1 million de véhicules électriques d'ici 2022, donc ça va augmenter. Voilà.
Et vos serviteurs sont équipés maintenant de véhicules électriques, donc c'est pour ça que...
Ouais. Alors j'ai regardé hier, tu sais en combien de temps ta voiture se recharge ?
Tout dépend combien il reste aussi.
Grosso modo, on compte de 20% à 80%.
Ouais.
Hein, c'est ça le standard. C'est-à-dire qu'on on ne descend jamais en dessous de 20 et on n'espère pas monter au-dessus de 80 parce que sinon ça allonge énormément le temps. Et ben évidemment, ça dépend de la puissance du chargeur mais également de la voiture. Il faut qu'elle puisse encaisser. Et donc les Zoé encaissent, je crois, au maximum 50 kWh.
Oui. Sauf, alors il y a une option qui permet de monter à 100 kW.
Voilà.
Mais c'est vrai que par défaut, c'est 50
kW. Voilà, la Hyundai Kona encaisse 77 kW, mais on n'est pas encore à 150.
Mais non, c'est clair.
Il n'y a que Tesla et puis les véhicules haut de gamme dont parlait Laurent.
L'actu voilà. Dans le monde de l'auto, Jérôme, c'est aussi, eh bien, évidemment, pas mal de sujets passionnants comme l'Apple Car. Alors, on en a parlé le mois dernier.
Ça y est, elle est sortie.
On en a parlé le mois dernier. On en reparle aujourd'hui, Jérôme. L'Apple Car, c'est pas pour tout de suite, hein,
non,
vraiment.
Non, c'est l'Arlésienne, l'Apple Car. Est-ce qu'elle verra vraiment le jour? Il y a quand même des signaux plutôt positifs. La semaine dernière, le mois dernier, on vous parlait effectivement de cette annonce du constructeur Hyundai qui disait voilà, et c'est super. Nous, on discute avec Apple. Et puis là, tout d'un coup, démenti, non, c'est pas vrai, en fait, on discute pas. Donc soit, ça veut dire que les discussions sont rompues, soit, plus vraisemblablement, c'est qu'Apple leur a tapé sur les doigts en disant,
vous
stop, êtes fous ou quoi ?
Voilà, démentissez, on va continuer à travailler avec vous si vous êtes gentil, mais il faut surtout pas qu'on en parle, on connaît le culte du secret chez Apple, et Apple, on le sait, a très mal digéré le fait que, un constructeur comme Hyundai dise qu'il travaille avec eux, hein. Ils détestent ça. Hein.
Et puis Nissan, a également démenti, discuter actuellement avec Apple. C'est d'ailleurs un vrai problème, parce qu'en réalité, on sent bien que Apple aura probablement besoin des constructeurs traditionnels, mais travailler avec Apple pour un constructeur traditionnel, ça voudra dire quasiment disparaître au profit de la royale marque à la pomme. Et ça, il n'est pas dit qu'ils acceptent comme ça de jouer des seconds rôles, hein, tous ces grands constructeurs.
Alors voilà, on a parlé aussi d'un éventuel partenariat avec Toyota, hein, qui est un constructeur aussi très en pointe dans le domaine de l'électrique. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Je suis pas persuadé qu'on ait beaucoup plus d'informations là dans les mois qui viennent. Hein, tout ça va être très secret et je pense qu'il va y avoir des clauses de confidentialité qui vont être assez costaudes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Apple est intéressé par le monde de l'automobile.
Voilà, avec ce projet Titan qui a été lancé en 2016, qui aurait été mis sous silence et puis qui est visiblement reprend du poil de la bête. Autre partenariat qui lui est officiel et confirmé, François.
Oui, on va parler de
Volkswagen et
Volkswagen.
Microsoft.
Oui, pardon, Volkswagen et Microsoft, c'est écrit là. Volkswagen et Microsoft. Alors, il faut savoir que c'est un peu l'alliance entre les géants de l'automobile et les géants de l'Internet. Ouais, hein. On sait que Google, par exemple, s'est associé avec Ford, je crois. Mm-hmm. Et là, c'est Microsoft qui s'allie avec donc Volkswagen. Non pas. Enfin, c'est plus un partenariat B2B, hein, visiblement, Jérôme.
Oui, c'est industriel.
C'est accélérer en quelque sorte l'innovation, l'arrivée d'innovation dans les véhicules.
Oui, ça concerne, ils vont utiliser le Microsoft Cloud Azure, probablement pour la fabrication des véhicules, mais sans doute aussi pour le véhicule autonome du futur, parce que le véhicule autonome aura besoin de stockage dans le cloud. Hein, vous le savez, beaucoup de data vont être produites et collectées et devront être traitées pour faire fonctionner une voiture autonome. Donc il faudra, faudra une partie de la puissance et du stockage de ces données dans le cloud et donc c'est un premier pas, un rapprochement avec Microsoft. Comme tu disais, c'est vraiment intéressant de voir cette convergence entre constructeurs automobiles et Big Tech, enfin leader du numérique. C'est une sorte de rapprochement qui fait sens de plus en plus.
Voilà, et le making-of des voitures qui est toujours impressionnant. J'ai toujours été fasciné par les robots qui
c'est d'une propreté.
Montent voilà, en quelques minutes des véhicules. C'est vraiment impressionnant.
Ouais.
Ça mériterait un petit reportage. Tiens, ça pourrait nous donner une idée d'aller voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Voilà pour cet accord Volkswagen-Microsoft, on y reviendra bien sûr. Et puis tiens, Jérôme, on connaît du carburant, on va dire, énergétique, électrique.
Ouais.
On connaît aussi bah, le liquide, hein, l'essence, le diesel, etc. On connaît peut-être moins un carburant en forme de pâte.
Et oui, si demain, dans votre véhicule électrique, vous mettiez une sorte de pâte de dentifrice pour la faire fonctionner, votre voiture.
Il ouais, ne faut pas se tromper le matin, en revanche.
Non, il ne faut pas se gourer.
Il ne faut pas se tromper de tuyau.
C'est une innovation qui vient d'Allemagne. Ça a été mis au point par... Alors, c'est amusant parce que c'est l'Institut allemand Fraunhofer. Et
mon
Fraunhofer,
Dieu.
C'est un immense institut de recherche allemand et qui est à l'origine notamment du format MP3.
Mais oui,
et voilà,
Fraunhofer a inventé plein de choses, dont le fameux MP3,
ouais, pas
évidemment.
Tout seul d'ailleurs, avec les Français Thomson, etc.
Tout à fait. Et là, donc là, il passe du MP3
ouais, à la pâte à carburant. C'est une poudre de magnésium et d'hydrogène qui, lorsqu'on la mélange avec de l'eau, produit de l'hydrogène liquide. Et donc, hydrogène liquide, vous le savez, c'est le carburant idéal pour un véhicule électrique doté d'une pile à combustible.
Ah, et d'accord,
oui.
D'accord. Donc, en fait, c'est un carburant qui serait propre, finalement, puisqu'il servirait à alimenter une pile à combustible.
Propre et sûr, parce que le problème, l'un des problèmes de la
Mais oui,
voiture,
c'est l'hydrogène.
C'est l'hydrogène, le stockage de l'hydrogène qui est dangereux.
Bien sûr, hein, parce qu'en fait, il faut le stocker à très haute pression, à des températures, je crois, très très basses.
Ouais.
Et si on a un accident,
si ça lâche,
c'est pas bon.
C'est
voilà.
pas bon du
c'est
tout.
Pas bon du tout.
Donc là, ce seraient des petites cartouches, en fait, pour faire le plein. Eh bien, on changerait sa cartouche de pâte dans une station ou chez soi, et puis hop, on repartirait pour un tour.
C'est génial.
Alors,
ça.
Alors, dans un premier temps, apparemment que pour les scooters, ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque chose de concret qui se prépare,
oui.
Et puis peut-être ultérieurement pour des voitures électriques.
Mais
pas.
Déjà, les scooters, ça serait bien, hein, parce
ouais,
que
ça serait bien.
Au-delà,
ça permet
ça fait du bruit, le scooter, là.
Voilà, ça offrirait une densité 10 fois plus compacte que les batteries actuelles dans lesquelles on stocke l'électricité. Parce que vous le savez, la pile à combustible, on fabrique l'électricité dans la voiture. Tandis que les voitures électriques traditionnelles, ben, il faut mettre l'électricité avant.
Jérôme, on voit que tu es un vrai professionnel.
Ah oui, oui.
Quand même maintenant,
donc,
hein, tu t'y
connais. Je vous invite à retrouver sur ma chaire de la Sorbonne consacrée aux véhicules électriques.
Hein. Bon, allez, on va dans quelques instants parler de Tesla avec pas mal d'informations concernant Tesla, baisse de prix, nouvel habitacle, etc. On évoquera aussi cette innovation signée Valeo qui débarque sur le marché du vélo électrique. Et puis, écoutez, bientôt les beaux jours. Peut-être qu'on ira
peut-être
à la plage tous d'ici quelques semaines, quelques mois. Et un nouveau moyen de locomotion qui a l'air hyper fun qu'on vous fera découvrir. Mais dans l'immédiat, Jérôme, c'est l'essai de Dimitri Charitsis qu'on va retrouver.
Et oui, comme chaque mois, Dimitri Charitsis prend en main un véhicule et aujourd'hui, il vous fait découvrir la Mercedes Classe S.
Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une vieille dame, mais pas n'importe laquelle, c'est quelqu'un d'assez respectable. C'est une dame certes assez âgée, mais qu'on connaît bien dans l'histoire automobile. C'est la Classe S, l'indémodable Classe S et sa nouvelle version. Et cette version 2021 ne déroge pas à la règle, il y a une tonne de techno à bord, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer sur cet essai. Alors ça commence d'une part avec le volant. Le volant, Mercedes dit de lui qu'il est capacitif, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir le niveau de pression et ça va compter notamment pour capter l'attention du conducteur et peut-être l'alerter si la voiture détecte un haut niveau de fatigue. À côté de ça, on voit que Mercedes a fait disparaître la totalité de ses boutons. Avant, le volant regorgeait de boutons. Cette fois-ci, ils ont été remplacés par des zones de commande tactile. Ces zones sont haptiques. Il y a exactement 4 zones et en fait, ces zones sont capacitive, c'est-à-dire qu'on peut ressentir une petite vibration quand on a appuyé dessus, ce qui permet de donner l'information au conducteur sans lui demander de détourner le regard de la route. Donc ça, c'est l'autre nouveauté du volant et franchement, ça marche plutôt pas mal avec une bonne division de chaque zone, chacun des 4 espaces étant dévolu à un contrôle particulier, soit l'affichage tête haute, soit les paramètres multimédia ou encore bah, les paramètres d'assistance de conduite, la limitation de vitesse, le régulateur, enfin ce genre de choses-là qui se commandent directement sur le volant. L'autre nouveauté du poste de pilotage concerne l'écran d'instrumentation. Lui aussi, il a complètement changé. Il intègre maintenant, alors derrière la dalle, 2 petites caméras. Ces caméras, elles ont évidemment plusieurs fonctions. La première, c'est une fonction de sécurité, c'est là aussi de détecter la fatigue potentielle du conducteur en regardant bah, notamment ses yeux, la position de ses yeux, ses paupières, enfin voilà, tout ce genre de petits détails qui peuvent déterminer, on va dire, le niveau de fatigue et voir si la voiture a besoin d'indiquer au conducteur qu'il serait peut-être temps de faire une halte, une petite pause et ensuite de repartir. Quand on veut régler les rétroviseurs, il n'y a plus besoin en fait de choisir le rétroviseur à régler et ensuite évite d'utiliser la molette qui le fait bouger. Il suffit simplement de regarder le rétroviseur qu'on veut régler, à droite ou à gauche, et d'appuyer sur le bouton de réglage. Ces caméras, elles ont aussi une dernière mission qui n'est pas tout à fait claire. Elles vont servir à l'autonomie de niveau 3. Alors en France, c'est limité, mais typiquement, Mercedes va proposer un pack qui sera valable dans les pays dans lesquels la législation est suffisamment avancée, notamment en Allemagne. Et en fait, ces caméras, elles vont permettre une autonomie presque totale sur certaines portions de route délimitées. Et en Allemagne, ça sera le cas dès cet été. En France, il faudra justement attendre que la législation arrive à ce niveau-là. Ce qu'on aime bien aussi sur le système MBUX, vous le savez, c'est la navigation et notamment ce fameux mode de réalité augmentée qui permet à l'approche d'un virage ou d'une intersection de souligner la trajectoire, de savoir un peu mieux où on va. C'est hyper utile quand il y a deux routes qui sont assez proches l'une de l'autre et qu'on hésite. Là, typiquement, il y a un fléchage qui va apparaître au-dessus de la navigation et qui va vous indiquer en fait où aller précisément. Et bien en fait, cette fonction, et là pour le coup c'est une nouveauté qui est exclusive à Mercedes, elle arrive sur l'affichage tête haute. On se retrouve maintenant à l'arrière de cette Classe S parce que c'est une des positions qui va être en fait le plus employée par les propriétaires de Classe S. C'est souvent des personnes qui ont un chauffeur. Donc globalement, à l'arrière, on est déjà super bien assis, on est dans une position hyper confortable. C'est presque une évidence compte tenu, on va dire, du niveau de la voiture. Mais ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on va retrouver un écran chacun et également un écran au milieu, un écran tactile pour pouvoir commander les écrans qui sont à bord. On a évidemment sur la partie centrale un porte-gobelet qui peut être soit chauffant, soit réfrigérant, donc c'est plutôt agréable. Et on a aussi une tonne de ports USB, mini USB, pour permettre à la personne qui est à l'arrière de véritablement travailler. On peut redresser le siège, on peut sortir cette tablette qui est juste là, hop, hop, comme dans un avion, une petite tablette d'ambassadeur, hop, et on peut donc travailler ici. Et puis après, voilà, il y a une tonne de connectique qui permet en fait de relier son ordinateur personnel à la voiture et de profiter également du deuxième écran. Pourquoi cette tablette centrale? Tout simplement parce qu'il peut arriver que l'écran soit un petit peu loin. Là, on a la possibilité de jouer avec l'écran tactile directement, mais il y a une position qu'on va l'appeler grand confort qui permet en fait tout simplement d'être quasiment allongé. Il suffit d'appuyer sur la touche qui se trouve juste là. L'écran, le siège lui bascule à l'avant, le nôtre va se former tout doucement, il va avancer, il va se déployer et on va passer dans une position hyper confortable, hyper allongée. Et finalement, la route paraît évidemment beaucoup, beaucoup plus agréable dans ces conditions. Alors bien sûr, ces conditions, c'est pas n'importe qui peut se les offrir. Cette Classe S, elle démarre à un minimum de 100 000 euros dans sa version basique. Et le modèle d'essai qu'on a là, il est déjà à plus de 160 000 euros, quelque chose comme ça. Nous, en tout cas, on a bien aimé rouler dedans et on a été très contents d'en profiter.
Ah ben voilà, il s'est fait plaisir Dimitri là.
Non mais moi plus tard, quand je serai grand, je veux devenir Dimitri Charitzis en fait. Non mais attends, c'est le top cette voiture.
Incroyable.
On se croirait en business dans un avion avec la petite tablette, l'écran tactile.
Mais ça, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant, la tablette.
Oui.
Ça fait très exécutif. Bon, il me semble que l'écran est sous Windows, par contre. J'ai rien dit.
Ça y est, le Windows bashing de Jérôme Colombin, mesdames, messieurs. Ça faisait un moment.
C'est pour vous taquiner.
Oui, je sais bien. Bon, alors ça, c'est intéressant. Autre sujet intéressant qu'on évoque régulièrement dans 01 Drive, c'est l'actualité. C'est cela, Jérôme.
Il se passe toujours quelque chose du côté de Tesla.
C'est vrai.
C'est quand même un constructeur pas tout à fait comme les autres, que tous les autres constructeurs surveillent du regard. Et pour en parler, nous recevons notre invité Armand Taïeb. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Armand. Alors vous êtes le PDG de Tesla Magazine.
Exactement.
Eh bien voilà. C'est-à-dire que la communauté Tesla aujourd'hui est tellement forte qu'on peut créer un vrai média dédié à Tesla, mais aussi à Elon Musk. C'est un petit peu la particularité de la philosophie de votre site web.
Exactement. Et on va petit à petit vers tous les sujets qui intéressent les propriétaires et les futurs propriétaires surtout.
Donc, on précise que vous n'appartenez pas à la compagnie Tesla. Vous êtes totalement indépendant.
Peut-être qu'Armand aimerait bien, mais là, ce n'est pas encore le cas.
C'est pas le cas et non, pas vraiment en fait, parce que je travaille aussi sur tous les autres sujets de façon objective. Donc voilà, je pense pour un média, il faut rester, il faut rester indépendant.
Tout à fait. Alors pas mal d'actualités concernant Tesla, hein, Armand. On a vu le nouvel habitacle de la Tesla qui, qui est vraiment très très beau. Et peut-être pour débuter un mot sur cette baisse de prix qui a été constatée en France et qui a surpris tout le monde, hein, quand
même. Exactement, moins 6000 euros, c'est ça, 6000 euros de moins annoncé le 20 janvier. Pourquoi cette baisse de prix?
Exact. Ben,
sur la modèle 3.
Ben, le modèle 3, donc c'est le modèle le plus accessible. C'est une volonté de s'adapter aux spécificités du marché français, notamment les aides gouvernementales. Pour y accéder, il fallait effectivement un certain niveau de tarif. Et je pense que Tesla affiche là clairement l'ambition de devenir une automobile populaire qui puisse être accessible aux personnes qui envisagent la Zoé. Donc ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas…
Démocratisation.
Démocratisation du véhicule électrique et d'offrir tout le package technologique qu'on connaît au plus grand nombre.
C'est quand même un événement parce que en plus, on a vu que Tesla était un petit peu descendu dans le top des véhicules électriques les plus vendus en France et en Europe. Je pense que c'est aussi pour ça parce qu'ils disent « Ok, on est peut-être un peu trop cher et on baisse le prix pour essayer de remonter dans ce classement, non Armand ?»
Et ça permet surtout de les faire tomber en dessous de la barre des 45 000 euros pour bénéficier du bonus écologique à taux plein de 7 000 euros en France, parce que sinon, ils ne bénéficiaient que de 3 000 euros de bonus. Hein, c'est bien ça?
C'est ça. Là, si effectivement le tarif était le problème, ils ont vraiment réglé le problème. Maintenant, effectivement, je pense que ça se joue aussi dans les spécificités françaises, à savoir les marchés qui sont importants, comme les marchés publics, les marchés de groupes et de niches. Tout ça, ça n'a pas été, à mon sens, encore adressé.
Mmh. Alors après, bon, évidemment, il y a la valse des options. Hein. C'est-à-dire que vous avez un prix, ça commence à 43 000 euros, une Tesla Model 3. Mais on peut vite exploser le compteur, hein. C'est le cas de le dire.
Ouais. Suivant, l'autonomie qu'on souhaite, les performances qu'on souhaite,
la finition aussi.
La finition, y a des choix effectivement qui sont donnés. Mais bon, il n'en demeure pas moins que là, la baisse de prix, elle est significative et suffisamment pour effectivement créer un
pour
petit climat.
Pour pouvoir rajouter un petit peu d'options.
C'est ça.
Mais si on en met trop, on perd ce fameux bonus. Enfin, on perd 4 000 euros de bonus en
exact,
fait.
Exact, exact. Mmh. Mais les performances ne sont plus du tout, les mêmes.
Ce ne sont plus les mêmes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que malgré tout, l'offre commerciale de Tesla peut être très agile, pays par pays. Et très agressive aussi. Hein. Mmh. Ça aussi, c'est intéressant. Et ça veut dire aussi que la France est un pays quand même intéressant et important pour Tesla. Hein.
Oui, oui. Non, non, clairement, là, les marques, l'Europe au global, avec l'installation de la Gigafactory à Berlin, pour moi, tous les signaux vont dans le sens, effectivement, d'une conquête un petit peu de l'Europe, hein, entre guillemets, de reproduire le succès de la Chine. Parce qu'effectivement, en Chine, il y a eu aussi cette stratégie de baisser les prix pour accéder aux aides gouvernementales. Et en parallèle, la Gigafactory, la Tesla Model Y et tout un panache de communication. Donc, on n'y est pas encore en France avec cette communication, mais ça devrait venir.
Mais vous dites Tesla veut démocratiser, etc. Ce n'est pas un peu étonnant comme façon de faire? Parce qu'on a toujours comparé Tesla à Apple. Apple ne baisse pas ses prix. Il reste, au contraire, positionné très haut. Il y a une question aussi d'image de marque. Il y a une question de
prestige.
Ils ne pourront pas descendre très bas quand même.
Mais est-ce que la stratégie entre Apple et Tesla est la même? Je ne suis pas sûr.
Oui, non, je pense que vraiment il y a une stratégie de volume qui est très importante chez Tesla et de démocratisation aussi. Et il y a aussi une courbe technologique liée à la batterie. Donc plus la production de batterie augmente, et ça a été une volonté qui a été affichée très très tôt, notamment aux batteries D en septembre qui n'avaient pas été très bien compris. Je pense que le but en fait c'était de dire il y aura de plus en plus de batteries et les prix vont baisser, donc des batteries. Et nécessairement comme c'est la source de coût qui est la plus importante, les prix vont avoir tendance à baisser. Si le prix peut être encore plus bas, peut-être qu'ils le feront. Mais effectivement, peut-être qu'en politique tarifaire, surtout en France, on pourrait mieux expliquer, mieux préciser, notamment aux clients existants, comment ça se passe.
Alors l'équation est presque parfaite, Armand, mais il manque quand même quelque chose, il manque une voiture, un véhicule taillé pour l'Europe. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Tesla qui sortent sont des véhicules assez gros,
enfin pour les villes européennes,
taillé pour les villes américaines, pour des grands parkings, pour des grandes routes, des grandes rues, etc. Il y a ce projet, non, de la part de Tesla, de sortir un véhicule qui s'adapte mieux à notre marché européen.
Clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de technologie avec Tesla, la voiture autonome. Tout ce qui se fait aux États-Unis, il y a un grand gap entre l'Europe et les États-Unis par rapport à ça. Donc effectivement, on peut considérer que c'est deux produits totalement différents. Et sur l'Europe, il y a effectivement un nouveau produit qui est en cours de fabrication. Donc il n'y a pas de nom encore. Tous les noms qui aujourd'hui sortent ne font pas du tout consensus. Mmh. Mais on parle d'une Tesla plus petite. Qui sera adapté, qui se rapprochera effectivement d'une Zoé, qui sera encore moins chère. Donc c'est ça qui est intéressant.
C'est voilà, que c'est ça.
Là, on peut imaginer une Tesla moins chère que la Zoé.
Et ce serait pour quand ?
Dans 2 ans, je pense.
Dans 2024. Mais elle est dans le pipe, c'est-à-dire que c'est Tesla a laissé entrevoir l'idée. Il n'y a pas eu d'annonce officielle concernant ce véhicule, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais ça cogite là-dessus, on est d'accord.
Oui, hein. Et sur l'Europe, justement.
Armand, en quelques minutes, rapidement, un petit mot sur l'autre actu qui a fait rêver beaucoup de monde. Hein. Ce sont les images qui ont été dévoilées récemment par Tesla du futur cockpit de la Model S, où là, ils se prennent carrément pour un véhicule du futur. Quoi.
Clairement. Clairement. Et effectivement, sur ce volant, donc, qu'on appelle Koala, je crois en français, ça a été traduit comme ça, il y a plusieurs questions. Déjà, l'homologation, il y a eu vraiment des questions sérieuses qui ont été posées. La réponse, c'est que oui, il est homologué en Europe.
Ah, ce serait homologué en Europe.
C'est déjà homologué en Europe. En France, je crois que ça n'a pas été encore confirmé. Au UK, ça l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, on est en train d'étudier le pourquoi Tesla sort un volant comme ça alors que personne ne l'a fait.
Oui.
Parce qu'en fait, la question, elle peut clairement se poser. Pourquoi Tesla, qui est un nouvel acteur, est autant innovant sur le volant, qui est un outil que tout le monde utilise.
Mm-hmm. Et c'est quoi la réponse selon vous ?
On est en train d'étudier le cas, on va publier quelque
chose
bientôt.
C'est quoi, c'est le début de la disparition du volant ? On commence par couper le haut et puis petit à petit, finalement, il va se faire de plus en plus discret.
L'idée, c'est ça. Mm-hmm. Effectivement, l'autopilote qui prend de plus en plus de poids, la technologie avec plus de confiance, on voit mieux les informations à l'écran et on voit mieux la route. Et on se sert moins du volant. Donc ça, pour moi, c'est effectivement, ça fait sens. Après, effectivement, j'attends de tourner.
Oui.
Voilà.
Oui, et puis faire un créneau avec un volant qui n'a pas de... Enfin, un demi-volant, c'est un peu curieux quand même.
Ça arrive quand, ça, toutes ces innovations ?
A priori, donc les dates qui ont été citées, là, encore rien de confirmé, fin 2021. Donc pour, en tout cas, ce refurb de la Tesla Model S et Model X.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que l'écran du cockpit affiche un jeu vidéo. Quoi. C'est complètement incroyable. Hein.
Ouais. Ça aussi, c'est... Avec une manette, enfin, ça ressemble aussi.
C'est vrai qu'une manette, ressemble. C'est
non,
vrai.
En fait, c'est un peu bizarre quand même. À bord d'un véhicule, on ne monte pas l'affiche d'un jeu vidéo. Il n'y a que Tesla qui peut se permettre ce type de choses. Hein. Voilà. Tout ça pour pousser aussi la partie autonome en fait, de ce véhicule. Hein.
C'est leur gros avantage. Enfin, les technologies et tout ça, c'est leur gros avantage par rapport aux autres.
C'est vrai qu'il ressemble un peu à un koala, je vous coupe, hein, le volant.
C'est vrai,
il ressemble un peu à un koala. C'est assez étonnant.
Pas mal. Bon, ouais, super.
Bah, écoutez, il suffit maintenant soit d'investir, soit d'attendre. Hein. Voilà. Et puis, d'autant que si vous avez un bitcoin, vous pouvez vous acheter une Tesla. Hein. Ça, c'est quand même la grosse information. Armand aussi. Hein. Une Tesla, un bitcoin, c'est ça ?
C'est ça, ça devrait être ça bientôt.
Oui, enfin, il faut que le bitcoin arrête de monter, alors, parce que sinon, la Tesla va être de plus en plus chère.
Oui, mais ça coûtera moins d'un bitcoin.
Ah, moins d'un bitcoin, ouais, d'accord.
Et alors, on vous parle de ça parce que c'est vrai que. Alors, je ne sais pas si c'est possible en France, mais aux États-Unis. On peut acheter une Tesla avec un bitcoin, avec la monnaie
pas
bitcoin.
Encore.
Pas encore.
Mais en tout cas, Tesla, il travaille.
Exactement.
Ouais. C'est fou,
ils ont investi pour pouvoir gérer toute la partie financière en bitcoin.
C'est pour ça qu'ils viennent d'acheter pour 1,5 milliard de bitcoin. 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Ouais.
Armand, merci beaucoup. Et on peut retrouver toute l'actualité de Tesla sur votre site, donc Tesla Mag. Merci beaucoup, Armand Taïeb.
Merci beaucoup.
On va revenir à des choses plus terre-à-terre, François, plus accessibles aussi et très prometteuses également. On va parler vélo avec une innovation française plutôt intéressante. Et oui, c'est Valeo qui nous rejoint, grande marque française que l'on connaît surtout, François, dans le domaine de l'automobile.
Et oui, c'est un équipementier auto très innovant, Valeo. On se souvient, Jérôme, de certaines émissions au CES de Las Vegas où on recevait des porte-paroles de Valeo qui annonçaient leurs nouveautés. Eh bien, la nouveauté aussi, elle est dans le monde du vélo électrique. Et Jérôme Mortal est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur des nouvelles mobilités chez Valeo France. Merci beaucoup de nous rendre visite.
Merci pour votre accueil.
On voudrait que vous nous parliez un petit peu de ce moteur pour vélo électrique qui a été présenté et qui a donc été mis au point visiblement dans vos laboratoires. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, enfin, pardon. Et avant tout, on ne savait pas que Valeo s'intéressait au vélo.
Effectivement, mais je vais reprendre votre introduction. Valeo est un équipementier automobile qui travaille dans la réduction des émissions de CO2 depuis de nombreuses années. Valeo est devenu le leader mondial de l'électrification. Aujourd'hui, 57% de notre chiffre d'affaires, c'est la réduction d'émissions de CO2. Et on a commencé à transférer ces briques technologiques et ce savoir-faire sur d'autres applications, comme des petits 4 roues, hein, vous connaissez sûrement Ami One, qui est notre système de propulsion, des petits 3 roues, des scooters. Et puis, naturellement, la question du vélo s'est posée, en se disant, mais pourquoi n'y arrions-nous pas aussi sur le vélo ? Et nous ne voulions pas arriver sur le métier du vélo, le business du vélo, avec comme un follower, en suivant les autres. On voulait arriver avec quelque chose d'innovant.
– Pour être en tête du peloton.
– Exactement, avec une vraie solution innovante. Et en fait, la solution, elle était là, elle était de dire, il faut qu'on amène un système complètement intégré, avec un bon niveau de performance, et avec une boîte de vitesse intégrée, pour enlever finalement toute la complexité du vélo. Plutôt que de prendre un vélo et de lui rajouter encore une couche supplémentaire, puisque c'est un peu comme ça que ça avait été fait quand les premiers vélos assistance électrique sont arrivés, c'est de dire, il faut qu'on repense le système, et qu'on intègre le système, le système complet pour finalement le rendre plus facile à utiliser. Donc les deux grosses innovations, c'était effectivement notre couple. On a un couple très élevé, hein, 130 Nm, c'est le plus gros du marché.
– Donc le couple,
c'est la puissance au décollage, oui, tout à fait. La perception de décollage.
– Nous fait partir encore plus loin.
– Exactement.
– Faites attention, parce que décollage, on va croire qu'on va s'envoler. c'est pas l'objectif.
– C'est pas l'objectif.
– Ce n'est qu'un vélo.
– Et cette boîte de vitesse intégrée, qui nous permet finalement d'apporter une autre innovation majeure, c'est de dire, on va aider, comme sur une boîte automatique de voiture, hein, quand vous avez conduit votre boîte automatique, vous revenez en boîte manuelle, vous dites, oh là, c'est un peu, il faut que je débraye, que je change mes vitesses, etc.
Exactement. Quelle horreur, jamais.
Et l'idée, c'était de faire la même chose, c'est-à-dire de dire, on a à notre portée de main plusieurs mesures, comme la cadence de pédalage, la puissance que le cycliste est capable de délivrer, finalement, ce qu'il est en train de faire, l'inclinaison de la route et des choses comme ça, on a plein d'informations qui sont disponibles, on s'en sert et on va prédire et on va aider le cycliste à ce que le moment qu'il est en train de vivre, soit le plus agréable possible. Je ne veux plus voir arriver un cycliste avec un vélo assistance électrique au travail, transpirant de sueur, comme ça nous arrive de le voir de temps en temps. Mm-hmm. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Ensuite, pourquoi on a pu faire ça ? L'avantage qu'on a eu, je dirais, par rapport à d'autres, c'est qu'on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit, tiens, on démarre de rien. Essayons de rendre le vélo le plus pur et le plus simple possible. Donc ça a été possible de tout intégrer dans le système en partant de cette feuille blanche. Et en même temps, on s'est dit, mais tiens, puisqu'on fait tout ça et qu'on a tout ça à portée de main, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et on a commencé à discuter avec nos premiers clients, dire, marche arrière, oui, on peut faire une marche arrière.
Marche arrière sur un vélo ?
Par exemple, vous savez, vous avez l'assistance au démarrage qu'on appelle le walk, excusez-moi pour l'anglicisme, hein, mais c'est l'assistance pour marcher à côté du vélo sur les vélos cargo, c'est très utile. Sur notre fonction, on peut l'avoir aussi en marche arrière, c'est-à-dire quand vous êtes mal engagé avec de la charge, de 150 kg de charge sur votre vélo, marche arrière.
Les trois enfants derrière, les deux enfants, courses devant.
Exactement.
Piano sur le.
Alors, on a dit.
Je fais une photo quand même.
La fonction Regen, hein, recharger la batterie, personne ne le proposait.
Qui existe sur les voitures.
Qui existe sur les voitures. On s'est dit, mais cette brique technologie, il faut à tout prix qu'on la mette sur le vélo.
Ouais, ouais.
L'anti-vol intégré, on a la boîte de vitesse, on s'est dit, on peut. Vous savez, une grosse crainte sur le marché du vélo, la plupart des clients sont frileux à acheter des vélos électriques, ils ont peur de se faire voler.
Bien sûr. C'est un vrai problème, c'est une vraie plaie.
C'est un vrai problème. Donc sur ce vélo, automatiquement, quand vous allez vous éloigner de votre vélo, il va se déconnecter, la boîte de vitesse va devenir neutre, le vélo, il est inutilisable. Donc c'est une somme de petites choses qui font que le vélo devient un objet unique.
Alors Jérôme, tout ça est passionnant, c'est intéressant, mais Valeo ne fabrique pas des vélos. Vous, là, vous présentez quoi ? Une technologie que vous allez distribuer, que vous allez commercialiser à des constructeurs de vélos ? Ou est-ce que vous allez sortir votre propre vélo, Valeo ?
Alors, il y avait la réponse dans votre question, je pense. On n'a pas l'intention de faire des vélos, mais pas du tout.
Sinon, ça sonne bien, le vélo Valeo.
Oui, ça sonne bien. Alors, le marché du vélo pour Valeo, on va le dire, ça sonne aussi très bien.
Oui, ça sonne bien aussi.
Notre vocation, c'est effectivement de sortir un système de propulsion. Donc, le système d'assistance, hein, qu'on appelle le Smart E-Bike System, la batterie, l'interface homme-machine, c'est-à-dire le petit contrôleur, ça va être notre kit. Et avec nos clients qui sont... les fabricants de vélos ou des gestionnaires de flotte qui veulent des produits très spécifiques et qui font fabriquer des produits très spécifiques, ça va être nos clients, donc on va faire du business to business. Mmh. Et ces gens-là vont, eux, vendre nos produits. Donc en ce moment, on est en...
pleine effervescence, puisque sont en pleine activité avec un certain nombre d'entre eux, puisqu'on a pour ambition de sortir en 2022.
D'accord.
Donc le premier vélo avec cette technologie sortira chez un constructeur de vélos en 2022.
Exactement. Début 2022.
Et alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire quels sont les potentiels clients qui pourraient commercialiser votre solution ?
J'en brûle d'envie, mais je ne peux pas.
Vous êtes sûr ?
Je ne peux pas. J'en brûle d'envie, mais je ne peux pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont...
C'est quoi ? C'est des constructeurs français, étrangers ?
Il y en a dans le monde entier.
D'accord.
Et je veux dire qu'aujourd'hui, les principaux... Les centres de gravité du développement du vélo, c'est le Nord-Amérique et l'Europe. Hein. C'est les deux gros marchés où les gens se concentrent sur des vélos avec des technologies du niveau de notre offre.
Ouais. Est-ce que c'est une technologie qui coûte cher ? Est-ce que ça va faire augmenter le prix du vélo ? Parce que, avec Jérôme, on en parle souvent de vélos dans 01 Drive, et on se rend compte qu'il y a des vélos qui coûtent plusieurs milliers d'euros.
C'est clair.
Sont déjà très chers, les vélos à assistance électrique.
C'est clair. Alors, notre objectif et notre cahier des charges initial, quand on est arrivé avec notre techno, on a dit on part sur le marché si notre offre, on rassemble les composants des technologies qui font la même prestation, c'est-à-dire le dérailleur, la commande de dérailleur, l'assistance, la batterie, etc. Si l'ensemble de ces composants, notre système, est au même prix. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé à communiquer, parce qu'on est à notre objectif, on sait que l'ensemble des sous-systèmes, notre offre sera au même prix.
Donc la promesse, c'est pas plus cher.
Pas plus cher. D'accord. Mais...
Et plus de fonctions. Mais
plus de fonctions.
Plus de fonctions. Plus de,
vous l'avez bien compris.
Et est-ce qu'on a plus d'autonomie aussi, Jérôme ?
Alors, mais naturellement, si vous ajoutez de la recharge batterie, de la régène, forcément...
Oui, mais si on ajoute 10 000 fonctions, traitement des données, etc.,
ça consomme rien, ça.
Non,
non, mais typiquement, la régène, ça va améliorer votre range batterie. Un autre avantage, la boîte de vitesse. Vu qu'elle est complètement intégrée et synchronisée avec le moteur, on va pouvoir aller faire fonctionner le moteur sur les plages idéales de fonctionnement.
Avec le meilleur rendement possible.
Exactement. Sans que forcément, pour l'utilisateur final, ça soit quelque chose de perceptible ou qui le gêne dans son appli, dans son moment de vie, dans son moment de vélo. Donc tout ça, ça va forcément améliorer le rendement du système.
Et on peut arriver à quelle, excuse-moi Jérôme, on peut arriver jusqu'à quelle autonomie avec cette technologie, à votre avis ?
Alors, c'est toujours difficile parce que ça va dépendre aussi du choix de vélo, l'aérodynamique du vélo, du poids, etc., etc. Mais globalement, pour les démonstrateurs qu'on avait présentés à la presse, avec des batteries de 600 watts, on faisait quasiment 100 km. Donc c'est juste pour 600 watts. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Ça va dépendre des applications sur lesquelles on travaille. En ce moment, on travaille aussi sur des vélos tout à fait classiques, mais aussi sur des cargos. Et vous voyez bien que c'est deux mondes complètement différents.
Bien sûr. Ouais. Donc c'est ce qu'on voit actuellement, ce vélo-là, dont on voit les images, n'existe pas, ne sera pas commercialisé en tant que tel, mais c'est intéressant. Et juste l'innovation, si on comprend bien, en fait, c'est que vous avez mis dans la même boîte le moteur et la boîte de vitesse.
La boîte de vitesse,
d'accord, alors qu'habituellement, c'est séparé.
C'est séparé.
Ce sont des éléments
donc effectivement, des systèmes équivalents existent, mais ce sont séparés et forcément moins optimisés, moins aboutis, et ça permet de mettre en place moins de fonctionnalités.
Il suffisait d'y penser.
Exactement, il suffisait d'y penser.
Donc on récapitule, voilà, une innovation dans le vélo électrique qui va arriver l'année prochaine chez plusieurs constructeurs connus, vous nous confirmez ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Ça ne sera pas forcément très très cher. Ça aussi, c'est une information.
On va être dans le prix marché.
Dans les prix du marché, oui.
Voilà, on pourra avoir une autonomie jusqu'à 100 km.
Enfin, les prix du marché, un vélo comme ça, c'est moins de 2 500 euros, quand même.
Vous êtes sûrement dans le juste, dans le prix du vélo final, oui.
Voilà.
Mais ce n'est pas ma spécialité.
Alors, petite dernière question. Est-ce que si je veux faire de l'exercice et avoir un peu plus une conduite sportive, je peux ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est là pour faire du vélo facile et, comme vous disiez tout à l'heure, arriver au travail sans transpirer ?
Alors, vous touchez la beauté du système, je dirais. C'est que, ayant ce système, comme j'ai dit tout à l'heure, complètement intégré et nos algorithmes complètement embarqués dans le système, on peut se permettre de préparer ou de prédisposer dans le système des lois de pilotage qui vont être du sportif, du touriste, de la balade, etc.
On choisit le mode.
Et en fait, vous allez pouvoir vous choisir le mode, mais le système, automatiquement, avec on l'appelle prédict, il va déjà vous faire des propositions. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un exercice de sport, il va le voir. En fonction de votre cadence de pilotage et de votre puissance, il va le voir et il va d'office commencer à vous faire des lois de changement de vitesse et du fonctionnement moteur d'assistance adaptées à votre besoin. Et puis après, s'il vous voit dans le même parcours, il vous voit changer votre attitude, il va continuer à s'adapter. Il va dire, on n'a pas besoin d'une demi-heure pour se rafraîchir. Ça va se rafraîchir tous les 30 secondes, 20 secondes, et il va s'adapter, il va dire, ah ok, Mon utilisateur a changé son mode. Là, il est repassé en mode balade. Madame a dû le rattraper. Il rentre tranquille tous les deux. Ouais. Et voilà, il va s'adapter. L'idée, c'est vraiment de faire du plaisir. Ouais. Que ce soit un moment de plaisir.
C'est formidable d'avoir le niveau de technicité, de technologie des vélos et des futurs vélos. Merci beaucoup, merci, Jérôme Mortal.
Je vous en prie.
Directeur des nouvelles mobilités, Valeo France. Eh bien, Jérôme, on va quitter les routes pour aller sur l'eau.
Mais oui, quand même, rêvons un peu. On va aller un petit peu prendre l'air avec un produit totalement décoiffant. Vous allez voir. Bonjour Yannick Penko.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur technique de Next Blue Tech. Alors bon, écoutez, c'est encore l'hiver, hein, on va pas se voler la face. Hein. Mais un de ces jours, ça sera l'été. Et l'été, on aime bien...
Et peut-être qu'on pourra sortir de chez soi.
Et c'est vrai qu'il y a énormément de jeux et de moyens de propulsion en fait sur l'eau aujourd'hui, hein, plus ou moins technologiques d'ailleurs. Et on va parler d'un engin à propulsion électrique qu'on pourrait peut-être utiliser bientôt eh bien, sur l'eau, en mer ou sur des lacs.
Voilà,
oui, Yannick, eh bien, alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
Alors c'est une trottinette des mers. Donc, c'est grosso modo une grosse planche de paddle, très large, elle fait 1,05 m de large. Elle a un petit moteur électrique, donc pas très grand.
C'est une trottinette électrique des mers.
Exactement, c'est une trottinette électrique des mers. Donc un petit moteur électrique en dessous, un guidon. Et ça vous permet d'aller vous déplacer sur l'eau sans faire de bruit, sans vagues et sans avoir peur de tomber à l'eau.
Alors on voit les images là. Alors
on voit quelques images avec des... On voit le petit propulseur, etc. Ça ressemble à un paddle.
Alors ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un paddle. La grande différence quand même pour l'utilisateur, c'est vraiment ce guidon. C'est-à-dire qu'on est très stable quand on est debout dessus, on n'a pas peur de tomber. Il est très gros, il permet d'emmener jusqu'à 150 kg, donc on voit qu'on peut y aller à plusieurs.
Bon, on peut monter dessus. À deux, peut-être pas. Mais...
Je ne rentrerai pas dans ce commentaire, Jérôme. Donc oui, 150 kg.
Okay.
Donc on peut y aller en famille, on peut y aller à plusieurs. Ça ne va pas très vite, ça fait du 7 km/h. Donc vous ne faites pas peur aux autres, vous ne faites pas peur aux autres personnes qui sont sur la plage. Vous ne faites pas de bruit. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus soft et le plus acceptable par tout le monde.
Mais ça tue pas un peu le plaisir du paddle ?
Alors, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de gens qui font du paddle et qui feront pas notre engin. Mais il y a beaucoup de gens qui font pas de paddle.
Ça, c'est quoi ? C'est du loisir ? C'est de la balade, c'est du plaisir,
c'est de la découverte. Aujourd'hui, quand vous êtes sur la plage, si vous n'avez pas une bonne condition physique ou si vous n'avez pas des connaissances en voile, allez vous balader sur l'eau, vous n'avez pas vraiment de solution.
C'est vrai.
Donc, aller faire du pédalo, c'est bien, mais si vous essayez d'aller faire 300 mètres, vous allez vraiment vous épuiser, à moins de mettre le moteur de Valeo dessus.
Non, moi, je me laisse dériver, en général, au bout d'un moment, voilà, c'est la police vous qui vient me chercher.
Voilà. Ouais. Et donc vous n'avez pas vraiment une solution qui vous permet, vous, d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et donc, on s'est dit, on va proposer quelque chose, un peu pour monsieur tout le monde, qui permet de remplacer un peu la serviette de plage. Au lieu de rester sur la plage, vous allez découvrir un peu ce qui se passe derrière. Et voilà, et c'est quelque chose qui est très 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 agréable pour.
Donc il y aura peut-être des trottinettes des mers à louer sur les plages françaises l'été prochain.
Alors il y en a déjà.
D'accord.
Donc on en a distribué 100 l'été dernier. Il y en a pas mal.
Où ça ?
Alors sur la côte, nous on est situé en région sud, donc on est à côté d'Aix-en-Provence, donc on en avait à Marseille, à Toulon, sur l'île des Ambiers. On en a quelques-unes qui sont parties à Bora Bora pour les chanceux qui veulent aller là-bas.
Ah ouais,
et puis quelques-unes à
Mallorca. Ils ne sont pas allés en paddle quand même.
Non.
Mais alors vous savez quoi, je vais vous raconter ma vie. J'étais en Corse cet été et j'étais sur un petit lac et j'ai vu des trucs comme ça. Mais je me demande si c'était votre appareil ou si c'était ou s'il y a d'autres projets et d'autres concurrents.
Alors on n'a pas de concurrents aujourd'hui. On a déposé des brevets. On en a également en Corse, effectivement. Il y a 20 trottinettes qui sont parties en Corse.
J'en ai vu et j'ai voulu en louer. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y avait une telle popularité de ce type de produit, c'est qu'il n'y en avait pas assez finalement. Et il fallait attendre énormément de temps pour pouvoir en louer une. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Mais c'est vrai que, en plus, ça attire l'œil. Tout le monde regarde ça. Et puis, sur un lac, c'est génial. Il n'y a jamais de vagues.
C'est vraiment génial. Et quand on voit des gens qui se promènent avec ça de loin, on voit des gens qui sont debout sur l'eau, on ne voit pas la planche parce qu'elle est au final au ras de l'eau. et on voit quelqu'un debout sur l'eau et on a l'impression d'avoir, enfin c'est presque mystique.
Alors c'est
quoi.
Différent des, de ce qu'on voit aussi des foils, hein, où on est sur une espèce de surf électrique, alors, mais qui est au-dessus de l'eau.
Alors c'est très différent. Nous les foils, on a commencé en fait, à vrai dire, notre expérience de start-up a commencé avec du foil puisqu'on voulait faire un scooter des mers sur foil électrique. Et puis finalement on s'est dirigé vers cet engin-là. Ça va beaucoup moins vite que les foils. Mmh. Les foils. Alors c'est génial, quand vous faites du foil, vous êtes sur l'eau, vous êtes au-dessus de l'eau, vous n'entendez rien.
C'est peut-être un petit peu plus sportif.
Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ma grand-mère, qui a un grand âge, monte sur notre trottinette.
Ah oui, mais pas sur un foil.
Elle ne montera pas sur un foil.
D'accord. Donc difficile à louer vu le succès, mais est-ce qu'on peut l'acheter ou c'est inabordable ?
Alors c'est vraiment un produit qu'on a designé pour les professionnels. Donc c'est un produit qui est très robuste, qu'on a designé pour avoir une durée de vie de plus de 10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose avec une batterie qui est très... on a 7 heures d'autonomie avec cette batterie, donc on va vraiment pouvoir le louer pendant toute la journée.
D'accord.
C'est pas un produit qu'on a fait pour du particulier, donc il fait 50 kilos, donc aller le mettre sur votre toit de voiture, c'est pas évident. Mais on réfléchit à designer quelque chose.
D'accord, vous avez quand même la petite musique de vous dire, est-ce qu'on peut pas faire une version plus abordable et plus grand public qu'on pourrait acheter si par exemple on apprécie ce type de...
Donc c'est évidemment quelque chose qu'on a dans les tiroirs. Là aujourd'hui on se focalise vraiment sur cette version, on est une start-up, on est une dizaine d'employés, donc on peut pas vraiment chasser tous les lièvres à la fois. Donc on commence par faire ce produit et le faire bien, mais évidemment ce produit-là est dans les tuyaux, il sera en démonstration, le produit grand public sera quand même en démonstration dès cet été.
Donc autonomie, vous disiez 7 heures
d'autonomie.
Et le temps de rechargement ?
Alors aujourd'hui, on prévoit de faire... C'est un engin qu'on prévoit donc pour les professionnels et ils le rechargent pendant la nuit.
D'accord.
Donc en gros, ils ont 4-5 heures de recharge, 7 heures d'autonomie. Ça leur permet de faire toute une journée de location. Ouais. Et effectivement, ça a été extrêmement demandé tout cet été. On a eu des clients en Corse. En fait, il fallait arriver le matin pour prendre une réservation pour pouvoir l'utiliser le soir.
C'est tout à fait la vérité.
Et il faut pas de permis pour ça. Hein.
Alors c'est sans permis. C'est aujourd'hui c'est un engin de plage. Donc c'est la même chose que pour un pédalo. Grosso modo, d'accord. Vous avez besoin d'autant de compétences qu'un pédalo. Donc pas de permis, et il y a des gens de 7, 8, 9 ans qui l'utilisent et des gens de plus de 90 ans qui montent dessus également.
Jérôme, te voilà rassuré, autant de compétences qu'un pédalo, ça devrait être jouable pour nous, on devrait pouvoir s'en sortir. Formidable. Ce produit
Next Blue Tech
est disponible. Il y a un site où on peut savoir où on peut tester, par exemple, est-ce que vous...
Vous pouvez, sur notre site, alors on a un site qui s'appelle blueway.fun. Oui. blueway.fun. Et puis vous pouvez nous contacter aussi directement
pour savoir où on peut tester ce type de produit. Merci beaucoup Yannick.
Merci à vous.
Voilà, on a l'impression d'être
vivement l'été.
Ça donne envie, hein, merci beaucoup. Et bien voilà, ce 01 Drive est terminé. Vous avez vu, hein, on évoque tous les sujets liés à la mobilité dans cette
exactement,
émission.
Y compris sur l'eau. J'espère qu'on aura de plus en plus de sujets aquatiques d'ailleurs au fil des mois jusqu'à l'été. Hein.
Exactement. Bon, bah écoutez, vous le savez, hashtag 01 Drive si vous voulez réagir au contenu de cette émission sur Twitter, bien sûr. Le compte Twitter de 01 TV. Et puis cette émission, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com et sur les box aussi, sur la chaîne 01 TV.
Voilà, merci de nous suivre depuis toutes ces années et surtout continuez. Portez-vous bien. Salut à tous. We'll be right back.